Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 17 novembre. Le tag islamophobe découvert sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. Aucune impunité pour les porteurs de haine à l'encontre de nos compatriotes musulmans. C'est ce qu'indique dans son message le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 17 des 25 élus de la majorité municipale ont signé un communiqué annonçant la création d'un groupe indépendant au sein de la majorité du conseil de Francheville. Une fronde contre l'actuel maire Michel Rantonnet. La ville de Lyon reconduit son plan de sobriété pour l'hiver à venir. Et puis nous parlerons à la fin de cette édition du festival Silk in Lyon, autrement dit le festival de la soie. Rencontre avec Cédric Brochier, l'héritier d'une famille dont la première activité dans la soie remonte à 1890. Il a accepté de revenir sur cette histoire en nous faisant visiter le musée des soieries Brochier, qui est Jules Courmont.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vingtaine de gendarmes déployés aux abords de la maison d'arrêt de Corba. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Une opération dans le cadre de Tempête 69. L'objectif était d'empêcher les habituelles projections à destination des prisonniers. Une dizaine de colis a été interceptée. Un groupe de 4 mineurs entre 15 et 17 ans, amené sur place par un chauffeur majeur, a pu être intercepté. Drogue, herbe, résine de cannabis, téléphone, mais aussi des bonbons ou encore des tacos chauds ont été interceptés. Un tag islamophobe avait été découvert mercredi sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. L'islam est antisémite. Aucune impunité pour les porteurs de haine à l'encontre de nos compatriotes musulmans. Ce message, c'est celui du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, posté hier sur Twitter. Le ministre annonce qu'une enquête est en cours pour interpeller les auteurs et les présenter devant la justice. Cette enquête est menée par la direction départementale de la sécurité publique. Elle a été ouverte pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
17 des 25 élus de la majorité municipale, dont 8 adjoints, ont signé hier un communiqué annonçant la création d'un groupe indépendant au sein de la majorité du conseil municipal de Francheville. Le nouveau groupe s'appelle Ensemble pour Francheville. Objectif, créer une nouvelle dynamique et favoriser des relations apaisées avec tous les acteurs de la commune. Le communiqué évoque notamment la volonté de développer une gestion municipale plus participative. La gouvernance de l'actuel maire Michel Rantonnet est qualifiée d'un autre temps, isolée et coupée de la réalité et des attentes des administrés. Les dissidents parlent de 3 ans de gouvernance autoritaire et de décisions prises sans concertation avec son équipe, de mise devant le fait accompli. Ensemble pour Francheville souhaite malgré tout rester dans le groupe majoritaire et parle d'une rupture sur la forme qui ne nous convient plus. On veut plus de collectifs, affirme-t-il. Le maire réagit ce matin dans les colonnes du Progrès. Certains égaux se voient à la tête de la ville. C'est une ambition saine et légitime d'ailleurs, mais un peu prématurée. Nous ne sommes qu'à mi-mandat. L'important, c'est que le cap du projet choisi en 2020 soit conservé, conclut Michel Rantonnet. La ville de Lyon reconduit son plan de sobriété pour l'hiver à venir. La facture d'énergie de la ville de Lyon devrait baisser de plusieurs millions d'euros en 2024. Elle pourrait néanmoins encore atteindre 32 millions. Le chauffage est maintenu à 18 degrés dans les bâtiments publics, exception faite des crèches où il est réglé à 19 degrés. Les piscines seront encore chauffées à 26 degrés, sauf 2 bassins réservés aux compétiteurs où l'eau est maintenue à 27 degrés. L'extinction de l'éclairage en cœur de nuit qui avait été testé pendant un temps a été abandonnée cette année. Enfin, les horaires de l'illumination des bâtiments publics est finalement revue en lien avec l'office de tourisme, avec désormais un éclairage de 2 heures par soir, 3 soirs par semaine. La municipalité va par ailleurs accompagner financièrement les partenaires culturels et socioculturels de la ville pour les aider à payer leurs factures. 7 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour risque de crue. Les départements concernés sont la Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Les niveaux sont toutefois orientés à la baisse depuis hier.
Lyon Demain, histoire lyonnaise.
Le festival Silk in Lyon, le festival de la soie, est de retour au Palais de la Bourse. La 5e édition se tient jusqu'à dimanche. Les professionnels de la soie sont mis à l'honneur pendant 4 jours. Mais plus que jamais, le grand public est invité à toucher et à participer. Des expositions, démonstrations, conférences, des battles de mode ou encore une chasse au trésor. Les visiteurs peuvent participer à de nombreux ateliers. Certains sont payants, d'autres gratuits, comme la confection de son propre bracelet en soie. Profitez de ce festival pour aller faire un tour au musée Brochier-Soierie, situé quai Jules Courmont au sein de l'Hôtel Dieu. L'établissement est dédié à l'histoire de la soierie à travers celle d'une famille de soyeux. Une collection de robes en velours façonné, brochet soierie et bianchini ferrié est actuellement présentée. Le tissage du velours de soie est un savoir-faire réputé à Lyon. Lily Gauvin, américaine vivant à Chicago, contacte un jour Cédric Brochet pour créer et imprimer un carré de soie pour le 125e anniversaire de l'Alliance française de Chicago. Un premier contact qui va faire naître une belle histoire que nous raconte Lily.
J'avais pris connaissance que c'était Brochet qui avait racheté Bianchini Ferrié dans l'année 2002. Je me suis dit, je vais prendre les photos des robes que j'ai gardées depuis les années 70 qu'avait ma mère, qui ont été faites en Argentine par une couturière qui connaissait les beaux tissus. On avait fini notre conversation au sujet de foulard. Je montre à Cédric la photo des tissus. Et il me dit, bah évidemment, ça c'est du Bianchini. Mais oui, c'est du Bianchini. En Argentine, il me dit, oui, l'Argentine a été un grand acheteur de soieries, de Bianchini. Alors je lui propose de lui envoyer des photos des robes, parce que j'ai pas pris des photos de robes. Et quand je lui ai envoyé, il a sauté dans un avion, il est venu. Donc il a trouvé encore deux robes de plus et les voilà aujourd'hui au musée. C'est des preuves du rayonnement de la France, parce que c'est un produit fabriqué en exclusive à Lyon qui est allé dans le monde entier, même en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud comme chez nous. Le fait que nous sommes de famille française et on apprécie tout ce qui est de cette qualité, de ce monde français, voilà, on a fait des robes qui ont été portée par ma mère aux États-Unis et en Amérique. Et de le voir aujourd'hui dans un musée, pour moi, c'est vraiment une grande émotion, parce que c'est donner encore de la vie à ces robes. C'est aussi un hommage à ma mère, qui a su apprécier, qui a vécu avec ces robes. Et aujourd'hui, elles sont ici pour que le grand public puisse les voir.
Brochier, un grand nom de la soie. Cédric Brochier est l'héritier de cette famille, dont la première activité dans la soie remonte à 1890. Il a accepté de revenir sur cette histoire de la soie en nous faisant visiter le musée.
Depuis 1890, c'est une histoire qui ne s'est jamais arrêtée et qui a toujours été une histoire avec plein de rebondissements. Et c'est ça qui est un petit peu la magie dans l'histoire, moi, de ma famille, c'est que la soierie, ça n'a jamais été facile. Et dans chaque période difficile, en fait, on est allé chercher qui pouvait éventuellement sauver la société, et donc de tisser d'autres fibres, de faire des tissus techniques, de faire des tissus intelligents, de voyager dans le monde entier pour pouvoir trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et ça, c'est l'ADN de ne jamais s'endormir.
Alors, sur le plan général, sur la soie, quelles sont les dates clés, je dirais ?
Les grandes dates clés de la soie, c'est, on va dire, à partir de 1400, il commence à se passer quelque chose. Surtout, c'est que les rois de France ont été des grands, grands consommateurs de soie, le clergé aussi, mais ben, toute la soie venait d'Italie. Donc, pendant des années, dans les budgets de l'État, le budget soie était, donc tissu, était un budget énorme. Et puis, à un moment où les rois ont commencé à se poser des questions et dire, mais et si on rapatriait ça en France ? Alors, plein ont été impliqués. François Ier était un des plus importants, puisque il a fait venir des tisserands florentins, dont on sait que c'est eux qui ont amené, entre autres, le Vieux Lion, tous ces bâtiments très typiques de Florence, qui aujourd'hui, en fait, sont l'architecture de Lyon, d'une certaine manière. Et ces deux florentins, en fait, sont venus avec leur métier à tisser, ont appris. Et puis après, ben, il y a eu des facilités en termes de commerce pour que la ville de Lyon devienne une ville commerçante de soie, etc. Et puis les sociétés de soierie se sont créées les unes après les autres. Certaines pour l'ameublement et d'autres pour l'habillement. Donc au fur et à mesure, on s'est retrouvé à avoir deux grands pôles à Lyon sur la soie. Tout ce qui était ameublement, les châteaux, les grandes demeures, etc. Et puis tout l'habillement, parce que bien entendu, dans une cour, il fallait aussi avoir des très belles robes. Et puis cette histoire, elle s'est continuée au fur et à mesure. Les rois, Napoléon a eu aussi énormément d'importance. Tous ceux qui ont construit des châteaux, ont rénové des châteaux, etc. Donc en fait, il a chaque fois fallu faire des très beaux tissus. Et donc en fait, on s'est retrouvé, la ville de Lyon s'est toujours retrouvée portée par ça. Puis jusqu'au moment où la haute couture est arrivée. 1905. Et il se trouve que moi, mon arrière-grand-père a commencé en 1890. Donc, en fait, il est arrivé au moment de la haute couture. Et dans les fabricants de soirées, il y a ceux qui faisaient des tissus entrée de gamme, plutôt moyenne gamme. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt spécialisés pour la haute couture. Et moi, mon grand-père, puis après mon père, en fait, se sont spécialisés dans des tissus, plutôt des tissus chers, compliqués à réaliser pour des gens de la haute couture. Alors, et donc, avec un marché très compliqué parce que les créateurs de mode sont un peu des divas. Donc, en gros, je voudrais, et quand je parlais du lamé du poète, c'est en gros, je voudrais un tissu qui brille avec un très beau tombé et qui soit en même temps doux pour la peau. Et donc, il fallait inventer. Et ça ne s'arrête jamais. La mode, c'est tous les 6 mois.
Sur le plan technique, il y a une invention quand même à Lyon, c'est le métier Jacquard.
Alors le métier Jacquard, c'est en gros, ce musée n'existerait pas, la soirée n'aurait pas existé sans ce métier Jacquard. Les Italiens, en fait, viennent, mais à Lyon, il y a tellement de gens qui s'impliquent dans ce métier-là. Et Lyon est une ville de travailleurs et donc d'ingénieurs, etc., de chercheurs, etc. Et Jacquard en est un, et donc lui invente cette fameuse mécanique, ce carton perforé, en fait, qui permet de pouvoir créer en fait un motif en levant les fils ou en ne les levant pas. Et en fait, c'est le système binaire que Jacquard a inventé. Et ce système binaire, c'est la naissance de l'informatique. L'informatique, c'est des réseaux. Les textiles, c'est du réseau. Et donc, en fait, le lien est très fort. Et donc, ce métier Jacquard, il nous permet aujourd'hui de faire tout ce qu'il y a dans ce musée. Rien ne serait fait sans ce métier-là.
Alors, justement, ce musée, parlons-en. Qu'est-ce que vous allez vous lui montrer? C'est quoi? C'est un peu un résumé de l'histoire de la soirée ici?
Alors, ici, c'est un résumé de l'histoire de la soirée lyonnaise. Vraiment en très condensé, parce qu'on n'est pas, on joue pas un rôle de grand historien, donc en fait on essaye de raconter l'histoire de la soie à Lyon à travers en fait l'histoire de ma famille. C'était un bon fil conducteur. Alors on parle beaucoup de la soie, on parle un peu de la famille et de Bianchini Ferrier, qui sont un peu les deux grandes sociétés de soie lyonnaise. Et Bianchini Ferrier, je l'ai racheté en 2002. Donc il y a un lien, et il y avait un lien très fort entre les deux compagnies, parce qu'ils avaient développé des tissus en commun, et puis ils travaillaient tous les deux pour la haute couture, ils avaient à peu près les mêmes marchés, donc il y avait et de la compétition et en même temps du soutien entre les deux. Mon père a construit une usine qui était en même temps c'est la sienne et celle de Bianchini Ferrier, donc des liens très forts. Donc on les a regroupés dans ce musée là et on raconte toute l'histoire de la soie dans ce musée là mais on la raconte on raconte même l'histoire de la soie mais du textile, parce qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale on s'est retrouvé avec pas de soie et donc on a tissé des fibres de verre. Donc en gros l'histoire elle s'est jamais arrêtée. Quand je dis on a toujours rebondi, il y a un moment ou un autre où il a fallu qu'on puisse faire autre chose. Et donc ce musée en fait il va jusqu'au bout et il s'arrête pas. Puisqu'en fait, quand on sort de ce musée-là, la société, il y a des gens qui... Elle est moins grosse maintenant, mais il y a des gens qui travaillent tous les jours pour faire les nouvelles collections pour la haute couture et les autres.
On voit du textile, évidemment, ici, mais on voit aussi des robes. Et ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué pour vous, de retrouver justement ce qui a été produit à partir de ce que vous avez fabriqué.
Alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, il y a eu une exposition à Lyon, au musée des tissus, qui était très bien, sur Saint-Laurent, et justement, on mettait en avant les créateurs de tissus, et c'est vrai nous on fabrique des tissus, on voit les robes qui ont été réalisées avec, mais après ça disparaît, c'est plus dans nos archives, c'est plus dans nos collections. Nous il nous reste des échantillons de tissus, un point c'est tout. Et là véritablement, dans ce musée là on cherche des robes, parce qu'en fait on veut pouvoir présenter des tissus, c'est bien, mais il y a un côté un petit peu pas très attractif. Ça veut dire que c'est vraiment pour des gens qui vont connaître la matière, qui vont aimer. Alors c'est beau, mais quand on voit une robe de Saint Laurent, une robe de Dior, une robe de Chanel ou de Michael Casey, qui est un Américain qui est là aujourd'hui, on comprend la magie. Ça veut dire qu'il a choisi un tissu, il l'a vu dans une collection, il a dit tiens, je pourrais faire une très belle robe avec ça, et d'un seul coup nous aujourd'hui on a réussi à racheter des robes. Et puis surtout on a une Américaine dont la mère avait 1000 robes, qui était à Chicago, et qui nous a donné pour le musée 5 robes en velours façonné. Et grâce à ces 5 robes, on a décidé de faire une exposition. Et puis ces robes étaient toutes en velours façonné, qui était un vrai savoir-faire lyonnais que Bianchini et Brochier ont porté. Et donc en fait, on a pris ces robes comme l'élément fédérateur, et on a retrouvé d'autres robes, une de Chanel, de Saint Laurent, de Galanos, qui est un autre américain qui a travaillé pour Marilyn Monroe, etc. Et donc on présente ici, en fait, les gens arrivent en disant je vais voir un musée du tissu, de la soirée, et en fait compte il y a surtout des robes. Et donc là il y a un très très beau défilé de robes avec des velours façonnés fantastiques.
Et pour finir, il y a un nez de Concorde à la fin. Quel est le rapport entre le nez de Concorde et la soirée?
Et pour finir, en fait, on se retrouve à la fin, c'est qu'effectivement, ce savoir-faire de la soirée, c'est d'inventer des métiers à tisser qui vont permettre de tisser certaines choses un peu compliquées, etc. Et il y a un moment où, en fin de compte, on est venu nous demander des tissus très compliqués pour l'aéronautique et pour le nez du Concorde, qui avait une problématique liée aux ondes qui devaient traverser, etc. Et donc, on nous dit, on voudrait que vous nous tissiez le nez du Concorde sur vos métiers à tisser. Et comme chez Brochier, on était très innovants et toujours passionnés par ces projets comme ça, on dit, OK, pas de problème, on va essayer. Et le métier sur lequel on arrive à tisser le nez du Concorde, c'est un métier de velours. Donc en fait, on a des robes qui ont été tissées sur des métiers velours façonnés. Et puis la dernière pièce du musée, c'est le nez du Concorde qui est tissé sur un métier de velours façonné. Et aujourd'hui, le Rafale est encore tissé sur ce même métier à tisser là. C'est-à-dire que l'histoire, elle s'arrête jamais en fait, dans ce métier-là.
Au musée Brochier, vous allez découvrir un métier à bras mécanique et jacquard de 1880, mais aussi des planches d'impression, des inventions racontées comme le tissu d'ameublement ininflammable créé à partir de la fibre de verre de Saint-Gobain après la Seconde Guerre mondiale, sans oublier les nouveaux textiles conçus à partir de fibres optiques et qui servent encore aujourd'hui le secteur de l'aéronautique. Le musée des soirées Brochier 18 quai Jules Courmont est ouvert tous les jours de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end.